Donc on va commencer aujourd'hui un cycle de séminaires qui sont organisés par le réseau de recherche thématique en région centre Midi, qui est donc dédié au milieu et à la diversité. Donc on remercie déjà la MSH de nous accueillir pour pouvoir ouvrir ce cycle de séminaires. Ces séminaires ayant surtout pour vocation d'essayer de favoriser sur le thème des milieux et de la diversité, l'interdisciplinarité et les échanges entre les sciences biotechniques et les sciences humaines. Donc aujourd'hui, on ouvre donc le grand séminaire avec une présentation de Jamel Kira. Donc on remercie d'avoir répondu présent pour ce séminaire. Donc Jamel est maître de conférence au laboratoire d'économie d'Orléans. Il est spécialisé dans les méthodes statistiques appliquées à l'économie, qu'il applique à l'économie de l'environnement et à l'économie de l'énergie. Et donc aujourd'hui, son exposé traite des effets redistributifs et régionaux de la taxe de carbone en France. Voilà. Merci.
Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des effets redistributifs, donc en termes de revenus, de la mise en place de la taxe carbone en France. Donc je vais d'abord contextualiser l'étude en rappelant un peu le cadre global qui concerne moi, le contexte international déjà de lutte contre le changement climatique, où pendant longtemps les membres de cette communauté internationale ont cherché les termes d'un accord international afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc ils y sont parvenus en signant le protocole de Kyoto en 1997. Et dans le cadre de ce protocole, les pays européens s'étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% sur la période allant de 2008 à 2012 par rapport à leurs émissions de l'année 1990. Donc dans le but d'atteindre l'objectif de réduction de 5,2%, les autorités européennes ont mis en place ce qu'on appelle le système communautaire d'échange de quotas d'émissions, le SCQE, donc qui est le marché carbone. Donc ce marché fonctionne toujours avec un système de trois phases. Hein. Donc la première phase, c'était une phase d'essai qui a commencé en 2005 et qui s'est terminée en 2007. Et puis il y a une deuxième phase qui a commencé, donc qui a coïncidé exactement avec cette période Kyoto, donc de 2008 à 2012. Et actuellement, nous sommes en plein dans la troisième phase de ce marché européen des quotas et qui devrait se terminer en 2020. Donc une suite sera négociée avant la fin de cette troisième phase. Donc les objectifs de ce marché européen des quotas d'émissions a été atteint dans la mesure où les pays européens ont rempli leurs engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto. Cependant, le prix du permis a été relativement faible, donc il n'a pas reflété la valeur sociale du carbone. Et puis en même temps, ce marché européen des quotas n'a concerné qu'un certain nombre de secteurs, donc beaucoup d'autres secteurs de l'économie sont restés non concernés par cette régulation environnementale. Donc c'est le cas par exemple du secteur résidentiel ou du secteur tertiaire, commercial. Donc en complément de ce marché européen des quotas, un certain nombre de pays européens ont mis en place des politiques de taxation carbone. Donc ici on a un tableau qui fait un petit résumé des taxes carbone dans certains pays européens, et puis avec leur date de mise en place. Et puis on a le montant de la taxe carbone. Donc on peut voir que les pays scandinaves ont été pionniers en la matière, avec des taux de taxes qui sont relativement très différents. Donc avec un taux très élevé en Suède, qui est de l'ordre de 160 euros la tonne de CO2, donc appliqué au secteur applicable au ménage, au secteur résidentiel. Cependant, on a encore ici beaucoup d'exemptions. Beaucoup de secteurs sont exemptés de cette taxe. Donc plus récemment, donc en France, une taxe carbone, une politique de taxation carbone a été mise en place dès 2014. Donc le montant était de 7 euros la tonne. Donc celle-ci a augmenté en 2015 pour atteindre 14,50 € la tonne, et puis en 2016, cette année, elle est de 22 € la tonne. Donc avant cela, il y a eu beaucoup de tentatives de mise en place de...
Mais c'est une taxe vis-à-vis de qui vis-à-vis de...
Non, parce qu'elle n'a pas été...
C'est quoi,
invalidée.
Non, non, elle est en vigueur depuis 2014. C'est une taxe...
Ça recouvre tous les secteurs, ça recouvre quoi?
Alors, ça recouvre... En fait, elle est appliquée au secteur résidentiel tertiaire, mais elle touche aussi les transports, parce que de toute façon... La taxe est prélevée comme un supplément de prix dans la vente d'énergie. Donc lorsque vous allez acheter du gasoil, vous avez une taxe carbone, vous payez une taxe carbone.
On est un peu divisé.
Alors, le secteur électrique, on est dispensé. D'accord ? Même s'il y a de l'énergie primaire qui est utilisée pour produire cette électricité, le secteur électrique étant déjà... un acteur majeur du marché européen des quotas d'émissions. Donc c'est un secteur qui est déjà régulé. Donc je reviendrai là, plus en détail sur la façon dont cette politique a été mise en place. Donc déjà la première tentative, c'était en juillet 2009, avec la contribution climat-énergie. C'était la commission Rocard qui a repris une préconisation du rapport Kiné d'une taxe carbone, avec un taux initial de 32 € la tonne. Et puis, on a prévu que cette taxe augmente au fil du temps pour atteindre 52 € en 2020 et 100 € en 2030. Donc, deux mois plus tard, le président Sarkozy, à l'époque, a annoncé la mise en place d'une taxe carbone de l'ordre de 17 € la tonne. Et ça, c'était pour être cohérent avec le prix du CO2 en vigueur sur le marché européen des quotas. Tout ça n'a pas été mis en place pour des raisons juridiques, essentiellement. Et puis, en 2013, dans le projet de loi de finances de 2014, on a annoncé la mise en place progressive d'une taxe carbone, donc sur les trois années, 2014, 2015 et 2016. Donc, première année, elle était de l'ordre de 7 € la tonne, mais compensée par une baisse d'une autre taxe sur l'énergie. Donc ça, c'était en 2014. Et puis, on a prévu que cette taxe-là allait augmenter donc, pour atteindre 22 € en 2016, sans compensation par ailleurs. Donc voilà. Et donc, pourquoi on a tardé à mettre en place cette taxation carbone? C'est parce que, traditionnellement, la mise en place d'une taxation ou d'une taxation carbone, donc elle fait craindre une perte de pouvoir d'achat des ménages et puis une perte de compétitivité des entreprises. Et donc pourquoi, lorsqu'on met en place une taxe carbone, on va introduire une source d'inégalité dans la mesure où les ménages qui ont les plus faibles revenus vont contribuer en part de leurs revenus, vont contribuer le plus au fardeau de la taxe que les ménages qui ont de hauts revenus. Donc d'où d'où la nécessité de trouver une politique économique qui viendrait corriger ces effets redistributifs. À côté de ça, on a des problèmes aussi d'inefficacité économique. Donc les entreprises qui se verraient appliquer une taxation carbone pourraient perdre en compétitivité. Et donc une façon de résoudre ce problème, c'est une solution liée à la littérature sur le double dividende, qui consiste à mettre en place une taxe carbone, mais en contrepartie alléger par exemple les charges patronales sur le travail. Donc c'est une façon de compenser la mise en place d'une telle taxation. Alors, pour ce qui est de la problématique de cette étude, c'est l'étude des impacts d'une taxe carbone telle qu'elle est en vigueur cette année, en 2016. On va supposer donc une taxe homogène de 22 € la tonne de CO2 pour les secteurs qui sera appliquée au secteur résidentiel et tertiaire. Donc cette étude exclut le secteur des transports. Donc cette taxe viendrait s'ajouter au prix du gaz et du fuel domestique. Et puis on va supposer que la consommation d'énergie va dépendre donc des besoins, donc des conditions climatiques, des revenus, et puis de la technologie utilisée, donc le mix énergétique de chacune des régions. Donc l'objectif du papier est de mettre en lumière les hétérogénéités régionales, donc climatiques, économiques et technologiques, hein, à travers le mix énergétique, et puis d'autres hétérogénéités qu'on n'observe pas, qui vont expliquer donc les différences dans les consommations d'énergie, et puis on va voir cette répercussion de consommation d'énergie sur les émissions de CO2. Donc hétérogénéité dans la consommation va entraîner hétérogénéité dans les émissions. On va évaluer les effets régionaux d'une politique de taxation carbone. Et puis on va proposer des mécanismes ou des mesures d'accompagnement qui permettraient de lutter contre ces inégalités et donc du coup accroître l'acceptabilité l'acceptabilité sociale d'une telle politique. Donc très rapidement, hein, une vue d'ensemble du papier, c'est que nous construisons des données régionales des émissions de CO2, donc à partir des données sur les consommations d'énergie du secteur résidentiel tertiaire. Et puis on va utiliser donc une modélisation en données de panel, hein, c'est purement statistique. On va pouvoir estimer les élasticités prix-revenus des émissions par tête. Donc élasticité, c'est un paramètre qui va nous permettre de dire... Voilà, si le prix de l'énergie augmente de tant, les émissions de CO2 vont augmenter d'un tel pourcentage. Voilà. Et puis, on va évaluer des scénarios de politique fiscale avant de proposer des mesures d'accompagnement de ces politiques. Donc, les résultats les plus importants, c'est que les effets de la taxe carbone vont varier d'une région à une autre. Donc l'introduction d'une taxe de 22 euros la tonne va entraîner une baisse des émissions par tête de l'ordre de 2 à 3% selon les régions. Et puis on montre que la taxe est régressive, donc régressive qui veut dire qu'elle pénalise plus les régions les moins riches par rapport aux régions les plus riches. Donc la Lorraine, par exemple, va payer 0,15% de son PIB, donc de son produit intérieur brut ou de sa richesse annuelle en taxe carbone. Et puis l'Île-de-France, la région la plus riche, ne payera que 0,05% de sa richesse. Donc on va évaluer les mesures d'accompagnement. Et puis, un résultat important, c'est que si on devait mettre en place une politique redistributive, donc on prend les recettes de la taxe et puis on redistribue de sorte à ce que chaque région, ou du moins les habitants de toutes les régions, paient le même pourcentage de leurs revenus en taxe carbone. Donc un habitant de la région Île-de-France devra payer 20 euros par an, en plus de la hausse du prix de l'énergie, donc en plus des 22 euros la tonne de CO2. Et puis un Lorrain se verra, va recevoir un remboursement de 11 euros par an. Mais ça, c'est en moyenne. Hein. Donc cette littérature maintenant, du moins cette étude s'inscrit au carrefour de trois littératures en sciences économiques. Donc la première, c'est celle qui traite de la courbe de Kuznets environnementale. La seconde, c'est celle qui traite de la modélisation statistique de la demande d'énergie. Une troisième branche de la littérature, c'est celle qui parle de la régressivité de la taxe carbone et des effets redistributifs. Donc la littérature sur la courbe de Kuznets environnementale, donc qu'est-ce qu'elle nous dit ? Il existe un certain nombre de papiers qui disent qu'il existe une fonction en forme de U inversée entre la richesse, donc le PIB, et la dégradation de l'environnement. Donc, plus un pays est pauvre, moins il émet. À force que les pays s'enrichissent, ils vont plus émettre, et puis il y aura à un moment donné un point de retournement. Donc quand on est très développé, on émet moins. Cette relation a été remise en cause par d'autres papiers. Et puis, en définitive, il n'y a pas de consensus sur l'existence de cette courbe de Kuznets environnementale, mais la non-linéarité a été prouvée. Donc on ne sait pas s'il y a un point de retournement, mais en tout cas, ce n'est pas linéaire. Ensuite, la deuxième branche de la littérature, c'est celle qui concerne la modélisation statistique de la demande d'énergie. Donc là aussi, le lien entre demande d'énergie et climat le lien entre demande d'énergie et revenu, il est en forme de U inversée. Le lien entre demande d'énergie et climat, il est en forme de U inversée, donc c'est-à-dire lorsqu'on a un climat doux, on consomme moins d'énergie, et puis plus il fait froid, plus on va vers des températures extrêmes, et plus on consomme de l'énergie, donc en chauffage ou en clim. Et puis un dernier papier qui est de Toll, qui lui combine en fait tous les facteurs explicatifs cités plus haut. Donc il modélise la demande d'énergie en fonction des revenus, des conditions climatiques et des prix de l'énergie. Donc notre étude se rapproche plus des travaux de Toll. Donc la troisième branche de la littérature, donc c'est celle qui traite de la taxe carbone et des effets distributifs. Donc il y a des papiers théoriques qui ont étudié donc, l'introduction d'une taxe carbone qui ont montré que celle-ci était régressive, elle pèserait plus lourd sur les plus riches, sur les plus pauvres, et moins lourd sur les plus riches. Et puis des études empiriques en France notamment, où on introduit une taxe sur la consommation d'énergie ou les transports, et les auteurs, Ruiz et Tranois par exemple, ont montré que cette taxe-là va peser relativement plus lourd sur les ménages à faible revenu. En Suède, donc, où une taxe carbone était déjà en vigueur, donc il y a un papier qui étudie les effets du doublement de la taxe carbone en Suède. Et ils ont montré que les régions les moins denses en population seraient les plus pénalisées. Mais ça, c'est pour des raisons c'est pour une raison simple, c'est qu'en Suède, dans les pays nordiques, le mode de chauffage le plus important, c'est le chauffage urbain. Et puis on a d'autres études, par ailleurs au Danemark. Et puis enfin, on parle de mécanismes de correction de ces inégalités, dont on a parlé. Donc l'histoire du double dividende pour les entreprises, et puis la redistribution des recettes de la taxe pour les ménages.
Je comprends pas très bien le mécanisme alors. Je comprends pas bien le mécanisme, alors peut-être que tu vas l'expliquer sur l'idée selon laquelle c'est inégalitaire. C'est que les ménages qui sont pauvres, ils utilisent plus, enfin ils émettent plus de CO2 en proportion que les ménages qui sont riches.
Non, du tout.
Qu'est-ce qui fait qu'ils contribuent plus ?
Non, en fait ils contribuent plus en part de leurs revenus. C'est-à-dire, pour se chauffer, tout le monde va chauffer, on se chauffera tous de la même manière, sauf que ça va peser plus lourd. Ça rejoint un peu les histoires de précarité énergétique. Donc il y a les ménages les plus les moins riches vont supporter la dépense en énergie qui est équivalente aux autres, mais du coup ça va peser très lourd dans leur budget. Donc ici, l'idée, vu qu'on parle des régions françaises, l'idée c'est de dire que des régions les plus froides, telles que la Lorraine, sont aussi en France malheureusement les plus pauvres, donc vont contribuer, donc ils ont un besoin de chauffage qui est plus élevé que les autres régions, alors qu'ils sont plus pauvres, donc du coup ils vont contribuer plus à la recette de la taxe carbone que les autres régions.
Mais ça c'est parce que c'est des régions plus froides, non ?
Oui.
C'est pas parce que
les gens sont plus froides et plus
froides parce qu'ils sont parce qu'elle est plus froide et qu'ils sont relativement pauvres que ça joue. Ouais. Mais c'est pas parce qu'ils sont pauvres, c'est juste parce que la région est plus froide. Ouais.
Non. Mais c'est dans les deux, ça marche dans les deux sens. Non.
Dans le premier cas, il fait plus froid, donc on chauffe plus, on consomme plus.
Ouais.
Par contre, c'est pas parce qu'on est plus pauvre qu'on consomme plus.
Voilà.
C'est parce qu'on est plus
pauvre. Revenu donné,
ouais.
À revenu donné, c'est parce qu'il fait plus froid qu'on consomme plus.
Oui.
Et c'est pas une question donc.
Oui, mais à température donnée,
oui.
La taxe va peser plus lourd sur un ménage qui est pauvre. On part de son revenu. Hein.
Ça dépend justement, c'est ce que je cherche à savoir. Est-ce que la littérature mesure bien cet effet, ce comportement au niveau du ménage? Est-ce qu'il y a des gens qui regardent un petit peu la consommation par ménage, pour les assister pris en fait du carbone sur leur consommation par ménage? J'ai l'impression que tu fais quelque chose d'agrégé, toi.
Oui.
Parce que tu vas nous montrer. Mais si tu regardes au niveau du ménage ce qui se passe, je ne suis pas sûr que ça marche comme ce que tu nous racontes. Il faut, encore faut-il le prouver.
Ouais.
Parce que moi, je pense qu'il y a des ménages qui sont pauvres font beaucoup, beaucoup plus attention que les ménages qui sont riches à leur consommation. Et à mon avis, l'élasticité prix de la demande est beaucoup plus forte pour les ménages qui sont pauvres que pour les ménages qui sont riches. Et donc, je ne suis pas si sûr. Il y a peut-être autre chose qui est en train de se passer quand tu agrèges le tout. Et je ne sais pas quelle est cette autre chose.
Non, en fait, tout ménages, ce que...
Je cherche à...
Ouais. Mais alors, juste pour répondre à ta question, Daniel, c'est que dans la littérature, tout ce qui existe sur les effets régressifs d'une taxation de carbone, c'est vraiment fait au niveau microéconomique sur les ménages.
D'accord.
En fait, mon travail est très inhabituel par rapport à cette littérature où moi, je vais utiliser des données agrégées.
D'accord.
Voilà.
Et donc, c'est documenté que
Oui, c'est très documenté. Ouais,
ouais,
ouais.
Okay.
D'ailleurs, c'est même pas très...
T'as un autre effet dont on ne parle pas, c'est l'énergie efficiency gap. Tu utilises des ratures là-dessus, sur le fait qu'on s'aperçoit que souvent les gens ne profitent pas des possibilités d'économie d'énergie. Et donc, des raisons, heureusement, il est temps souvent de dire le double vitrage c'est rentable à partir de tant d'années, pourquoi on ne le fait pas? Et souvent les gens ne le font pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et souvent ils n'ont pas d'argent parce qu'ils ont, même en dépit du fait qu'on a des politiques de soutien aux économies d'énergie, donc le pauvre il peut pas avoir une maison aussi isolée qu'un riche parce qu'il va avoir des. Et bon, aux États-Unis c'est encore pire, ils sont pas sur la thermique parce qu'ils n'ont pas un rond. Et donc ça vaut dans l'autre sens aussi, quoi. Ça vaut dans ce cas-là. Le fait d'avoir un rationnement sur le capital, de ne pas avoir accès à des ressources financières, ça les empêche d'être mieux isolés que les autres. Donc ils souffrent plus encore de la précarité énergétique.
Oui, il y a toute une littérature sur les histoires de précarité énergétique qui est liée à ça, ou du moins l'identification d'un ménage précaire énergétiquement à la base était identifié comme un ménage qui payait plus de 10% de son revenu. Qui consacrait plus de 10% de son revenu à l'énergie, à consommer de l'énergie. Et puis, tout ça a été remis en cause, parce que, justement, pour les histoires que vient de raconter Xavier, donc il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le revenu. Il y a le plus riche est mieux isolé, donc il y a...
Oui, mais ça a à voir avec le revenu,
oui.
C'est ce qu'il dit aussi.
Oui, oui, oui.
En fait, c'est intéressant. Donc, en gros, quand tu augmentes le prix du carbone... tu vas avoir des gens qui, combien même, voudraient moins utiliser donc de l'énergie parce qu'ils sont pauvres, au bout du compte, comme la technologie est inefficace, plus la technologie qu'ils utilisent pour consommer moins est plus efficace que la technologie qu'utilisent les riches, parce qu'ils sont riches et ils savent la mettre en place, que du coup, au bout du compte, au niveau agrégé, ou au niveau du ménage, au bout du compte,
Donc ensuite, alors notre contribution dans ce papier, c'est d'évaluer donc ces effets de taxe carbone en prenant en compte l'hétérogénéité spatiale des différentes régions françaises, donc spatiale et climatique. Et puis, on suppose que finalement, cette hétérogénéité géographique, ça va être une source supplémentaire d'inégalités face aux politiques climatiques. C'est-à-dire, déjà, dans une même région, il va y avoir de l'inégalité selon le revenu des ménages face à cette politique climatique. Et puis, ces aspects géographiques vont encore exacerber cette inégalité entre les différentes régions. Donc on va voir comment et pourquoi. Donc je vais commencer par vous présenter les données dont on dispose. Donc on a un panel, ça veut dire que on a les régions et puis à des dates différentes. Donc on a des données sur les 22 régions françaises. Et puis pour les années 95, 17, 19, 2000 et puis de 2004 à 2009. On a donc des données régionales pour tout ce qui est consommation de gaz et de fuel domestique lié à l'usage des bâtiments, donc c'est le résidentiel et puis le tertiaire. Donc on a le produit intérieur brut par tête de chaque région ainsi que la population. On a la température annuelle moyenne et puis le nombre annuel de jours de gel. C'est pour capturer les températures extrêmes. Et puis à côté, on a des données nationales sur les prix du gaz et prix du fuel domestique. Donc pour construire notre variable émission par tête, donc on part de la consommation de gaz et de fuel qu'on multiplie, donc on fait une moyenne pondérée. Pour calculer les émissions, donc on prend les facteurs d'émission du gaz et du fuel qui sont retenus par le GIEC, donc qui nous dit que si on brûle une tonne d'équivalent pétrole de gaz, on va émettre 2,3 tonnes de CO2, et si on brûle une tonne d'équivalent pétrole de fuel domestique, on va émettre 3,2 tonnes de CO2. Donc on va rapporter ça à la population, et puis à côté, on va construire une autre variable qui va nous donner, qui nous servira de proxy pour la technologie de chauffage. Donc c'est le rapport des consommations gaz sur fuel. Donc voilà, donc si cette variable est élevée, c'est-à-dire plus on consomme du gaz, plus la technologie va être élevée, et donc plus celle-ci va être vertueuse en termes d'émissions. Donc là, je vais vous présenter quelques cartes qui vont nous permettre d'avoir une idée, du moins une analyse. On va essayer de faire une analyse un peu des données dont on dispose. Donc cette carte nous montre les émissions de CO2 par tête des différentes régions françaises, pas des nouvelles, donc en 2009. Donc on voit que plus c'est rouge, plus la région est émettrice. Donc les émissions par tête, elles vont de 0,80 tonnes par tête pour les régions en bleu, donc en région PACA par exemple, à plus de 2 tonnes par tête. Donc c'est le cas de la région Lorraine et Picardie par exemple. Donc on voit qu'il y a de l'hétérogénéité entre les régions en termes d'émissions par tête.
Oui, c'est lié au climat aussi, c'est ce qu'on voit. Quand on voit les régions méridionales, elles sont bleues.
Oui, ouais. Ouais, mais pas uniquement.
Parce qu'il fait plus chaud.
Oui, oui.
Non, pas uniquement, mais on voit bien que vers le bas,
plus on va
ça tend vers le bleu, et vers le haut, ça tend vers le rouge.
Le rouge, oui. En fait, on a un effet vers le bas et vers le haut, et puis on a un effet littoral un peu.
Littoral, c'est normal, parce que c'est
continental.
Plus, voilà. C'est moins continental.
Ouais. Ensuite, cette carte, elle nous montre le PIB par tête régional, donc la richesse des régions, la richesse annuelle des régions en 2009 par habitant. Donc on va d'un peu moins de 23 000 euros par tête à plus de 45 000 euros par tête, donc pour la région Île-de-France. Vous voyez là. Donc on voit que les régions les plus riches, c'est la région Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA. Donc pour la région PACA, donc, elle émet moins, elle est riche et il ne fait pas froid. C'est un peu l'idée. Donc cette carte nous donne les températures moyennes régionales en 2009. Donc on va de 10 degrés à 16 degrés. Donc plus on va vers le sud, plus il fait chaud. Et plus on va vers le littoral aussi. Donc il y a littoral et puis région continentale. Et là, on a le nombre de jours de gel en 2009 aussi. Donc pareil, plus on est en nord-est, et plus il fait froid.
Pardon, je peux poser une
question? Oui, bien sûr.
En nombre de jours de gel, c'est quand même curieux que l'Île-de-France quoi, un îlot par rapport au bleu plus foncé qu'il y a autour. Est-ce que c'est un effet de microclimat artificiel lié à la densité de déplacement, à la densité d'habitat? Parce qu'il n'y a aucune raison climatologique ou en termes de relief qui amènerait à ce que la région parisienne soit différente de la région centre ou de la Haute-Normandie ou de la Picardie. Mais c'est juste une interrogation comme ça.
Alors juste une chose hein, qui est très importante ici, l'échelle que vous voyez à gauche, elle n'est pas linéaire. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes là qu'on est à 5 ou à 6 jours de gel par an. Dans l'échelle n'est pas linéaire, c'est plus un classement qu'autre chose. Je ne sais pas, mais... Peut-être qu'on superficie, parce qu'en gros, ce qu'on avait fait, c'est que nous, on a les données qui nous sont fournies, elles sont départementales. Donc, on a le nombre de jours de gel par département, le nombre de jours pendant lesquels... Parce que jours de gel, c'est le nombre de jours pendant lesquels la température est inférieure à 0 degré. Donc, du coup, je ne sais pas. Peut-être que l'Île-de-France, vu que c'est assez urbain, donc on est à 1 degré, et qu'à côté, on est à moins 1, et du coup, ça...
Voilà. C'est pareil qu'à Montsouris. Hein. C'est sûr que Montsouris, c'est le climat des Landes, hein, globalement. Enfin, j'ai vu des études là-dessus, c'est la climatologie dans Paris même. Selon le sens des conquis de Paris, quand on arrive à Orléans, on voit qu'il fait beaucoup plus froid déjà, parce que tu as cet effet de l'urbain. Mais effectivement, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et tout, où se trouvent où sont prises les données climatologiques. Quoi, ça, ouais.
Donc ensuite, là, je vous présente rapidement le modèle avec une petite équation, juste pour vous dire ce qu'on va faire. C'est qu'on va modéliser, donc le EIT, c'est les émissions de la région I à l'instant T, en fonction du PIB. Le YIT, c'est le PIB, donc c'est la richesse d'une région I à l'instant T. De son carré, pour essayer de prendre en compte cet effet Kuznets s'il existe. D'accord, hein, on donne une forme quadratique à la fonction qui lie le PIB et les émissions par tête. Ensuite, on a le prix du gaz, le prix du fioul, la technologie, les températures, et puis pour G, c'est le nombre de jours de gel. Donc c'est une équation linéaire. Hein. Donc toutes les variables ici sont en logarithme, ce qui nous permet de calculer, donc ce qui nous facilite l'interprétation des paramètres qui vont s'interpréter ici comme des élasticités. Ça veut dire que lorsque je vais estimer le paramètre, par exemple, alpha 3, il va me donner de combien vont augmenter les émissions par tête si j'augmentais le prix du gaz de 1%. Si je faisais baisser le prix du gaz de 1%. Donc voilà, bon. Ensuite, ça c'est pas très important. Et puis les résultats de l'estimation me permettent, du moins, on a estimé plusieurs modèles et puis le plus optimal, on va dire, c'est celui-ci. Donc qu'est-ce qui me permet de dire celui-là? C'est-à-dire que tous les paramètres suivi de 3 étoiles, c'est que c'est des paramètres statistiquement significatifs à 1%. Voilà. Donc, c'est un modèle qui exclut le paramètre du PIB au carré. Ça veut dire que, parce que l'estimation précédente m'a permis de l'éliminer dans la mesure où ce paramètre n'est pas significatif. C'est ce qui me permet de dire que je n'ai pas de preuve de l'existence d'une courbe de Kuznets environnementale ici. Ensuite, si je veux interpréter ces paramètres, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, donc si le PIB ou si la richesse d'une région venait à augmenter de 10%, les émissions par tête de ces régions-là vont augmenter de 4,3%. Et de la même manière, donc si le prix du gaz venait à augmenter de 10%, les émissions par tête vont baisser de 3,7%. Donc juste pour avoir un ordre d'idée, les 22 euros la tonne représentent à peu près 8% du prix de l'énergie. C'est-à-dire, ça correspondrait à une hausse du prix du gaz de 8%. Donc là encore, oui. Entre-temps, j'ai perdu le prix du fuel. Alors, pour une raison très simple, je ne peux pas garder les deux prix, parce que c'est des prix nationaux, donc ils ne présentent pas assez de variabilité. En fait, les tendances des prix du gaz et du fuel en France sont assez parallèles, donc ce qui ne me permet pas de les distinguer. Voilà. Ensuite, pour la technologie, donc si ma technologie devient plus vertueuse, les émissions par tête vont baisser. Si les températures venaient à augmenter, je vais émettre moins, les émissions par tête vont baisser. Et si le nombre de jours de gel venait à augmenter, les émissions par tête vont augmenter. Donc ça, c'est juste pour capter les températures extrêmes. Ensuite, je vais utiliser ces paramètres estimés pour simuler ce qui se passerait si j'augmentais les prix du gaz ici d'un équivalent de 22 euros par tonne de CO2 émise. Donc sur la base de ces paramètres. Mais avant ça, je vais juste parler un peu de la courbe de Kuznets. Donc ça, j'ai ces trois fonctions, c'est les points qui correspondent à l'estimation de différents modèles. Donc ce qui me donne en fait une forme qui n'est pas en U inversé, même si je vois que c'est pas vraiment linéaire. Maintenant, ce qui me permet de dire que c'est linéaire, de retenir un modèle linéaire, c'est que si je devais tracer juste un intervalle de confiance ici, en fait tous les points vont être dans l'intervalle de confiance, donc il est raisonnable, d'accord, de considérer un modèle linéaire. Ensuite, une petite chose, donc le modèle qu'on a estimé nous permet aussi de capter des effets spécifiques régionaux. Donc ces effets spécifiques, qu'est-ce que c'est? C'est les émissions par tête, c'est le logarithme des émissions par tête qui ne sont pas expliquées par toutes les variables que nous avons considérées. Donc ici, qui n'est pas expliqué par le revenu, par le gaz, par le prix du gaz, par le prix du fuel domestique, ni par la technologie. D'accord? Donc ça peut être dû à tout, sauf à ces variables qu'on considère. Donc ça peut être lié, par exemple, à la qualité d'isolation des logements de la région, à la sensibilité au froid, si je veux pousser un peu mon raisonnement. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça me donne comme résultat? C'est que la région Lorraine, la région Nord-Pas-de-Calais et la région Aquitaine, par exemple, donc toutes choses égales par ailleurs, donc pour un même niveau de revenu, les mêmes prix du gaz et la même technologie, vont émettre en moyenne plus que les autres régions. À l'inverse, des régions comme l'Auvergne, la Bretagne, la région Midi-Pyrénées ou Limousin, donc toutes choses égales par ailleurs, pour les mêmes niveaux de prix et les mêmes niveaux de revenus, elles vont émettre moins que les autres régions. Donc c'est ce que je vais appeler moi les effets spécifiques régionaux. Donc c'est de l'hétérogénéité inobservée finalement, parce qu'on ne sait pas à quoi elle est due, mais on sait qu'elle n'est pas due aux facteurs que nous avons considérés dans notre modèle. Donc maintenant, une fois que nous avons estimé le modèle, on va simuler les effets de cette taxe carbone. Donc on va simuler ça pour l'année 2009. On va supposer qu'en 2009, une taxe carbone a été introduite d'un montant de 22 euros la tonne. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre quels sont les ratios recettes de la taxe carbone sur la richesse régionale, sur le PIB régional. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Île-de-France contribue pour 0,05% de sa richesse, de son PIB. Et puis, les régions les plus pénalisées, donc c'est la Lorraine par exemple, la Basse-Normandie, qui sont les plus grands contributeurs finalement à cette taxe carbone. et la région Auvergne aussi. À côté de ça, la région Île-de-France ou la Corse ou la région PACA contribuent le moins à la recette de la taxe. Donc c'est là où on met en lumière ces inégalités. Et donc si on devait retenir un critère d'équité qui serait l'égalité devant cette taxe carbone où tout le monde doit payer le même prix, même si on habite en Corse par exemple ou en région PACA, on peut...
Alors, je n'ai pas suivi un truc, donc ouais. Vous avez des données de recettes.
Ça, c'est nous qui les calculons.
Et les recettes, donc, vous les calculez comment?
C'est le prix du CO2 multiplié par les émissions par tête fois la population. Les émissions, les nouvelles émissions dans une situation de...
Oui, donc c'est pour ça que c'est lié, c'est parfaitement, enfin, corrélé avec le graphe que tu nous as montré
tout à l'heure. Oui,
ok.
Donc ensuite, alors, on suggère un mécanisme de correction des inégalités qui serait de redistribuer les recettes de la taxe. Naturellement, il ne s'agit pas ici de donner un chèque en blanc à tout un chacun, mais on pourrait conditionner le remboursement pour les Lorrains, par exemple, à la mise en place... à une amélioration de la qualité d'isolation de son logement ou à des investissements ou carrément c'est, faire lier ça aux histoires de chèques verts, donc c'est-à-dire ne pas rembourser sans contrepartie mais toujours dans un but de réduire les émissions. Donc ici l'idée c'est de demander de rembourser, donc une fois la taxe carbone mise en place, chaque année nous allons rembourser quelque chose comme 12 euros au Lorrain, aux habitants de la Basse-Normandie. Et puis on demandera une contribution supplémentaire aux habitants de la région Île-de-France de l'ordre de 20 euros par an. Ensuite, une autre façon de corriger les inégalités serait de mettre en place directement une taxe carbone, mais différenciée, régionale. C'est très lourd à mettre en place économiquement, mais c'est une demande...
J'ai une question.
Excuse-moi. Oui.
Tu me disais que tu ne tenais pas compte de l'électricité. Et en fait, peut-être une des raisons pour laquelle... J'essaye de comprendre un peu ce qui se passe. Une des raisons pour laquelle tu as la Lorraine qui est contribue nettement plus que les autres, et que finalement, peut-être parce que la Lorraine, pour des raisons historiques, se chauffe beaucoup plus au fioul, au gaz qu'à l'électricité par rapport à d'autres régions. Est-ce que c'est pas ça ce qui est en train de se passer? Je sais pas. Parce que du coup, tu ne tiens pas compte du tout de l'électricité. Et donc, tu ne tiens pas compte du mix énergétique demandé par les uns et les autres. Tu ne te concentres que sur un bout de ce mix énergétique qui est fioul et gaz. L'électricité, tu la mets de côté. Et peut-être que la raison pour laquelle d'autres régions émettent moins, c'est simplement parce que l'accès à l'électricité, pour je ne sais quelle raison, est beaucoup plus facile, beaucoup plus...
C'est tout si
peut-être historiquement a fait que certaines régions consomment plus d'électricité que du fioul et du gaz, non? Je n'en sais rien.
En région centre, il y a beaucoup d'électricité, donc c'est facile, et puis finalement...
Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a...
C'est sur
il y en a plus qui se chauffent
si tu regardes,
à l'électricité. C'était relatif.
Ouais.
Je ne dis pas que... Je dis juste que peut-être qu'en Lorraine, parce que c'est un point quasiment aberrant par rapport à d'autres, il y a peut-être ça, il y a peut-être des liens, tu vois.
Oui. Alors pour répondre à ta question, c'est vrai que nous ne tenons pas compte de l'électricité, donc pour différentes raisons. La première raison, c'est que comme l'électricité ne fait pas partie de la réforme taxe carbone et que par ailleurs ce secteur est déjà régulé par le système européen des quotas, donc du coup on l'a exclu dès le départ. Ensuite, pour sur ce qui est de la consommation d'électricité.
Oui, mais je me demande dans quelle mesure ça ne crée pas de biais dans vos estimations de l'exclure. C'est le sens de ma question. Si vous aviez à... Parce que les émissions d'une région va dépendre, évidemment, donc, du prix du fuel, du prix du gaz, mais dépendra également de l'accès à l'électricité ou le prix de l'électricité par ailleurs. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas observé et qui va, que vous allez retrouver dans ce qui n'est observable, tout ce que tu nous montres.
Mais les émissions que nous étudions là, c'est des émissions hors électricité aussi.
Mais j'entends.
Ouais.
Mais tu es bien d'accord que l'électricité
ne peut pas les impacter
sur tes émissions. Tiens, quelqu'un qui a un accès plus facile à l'électricité qu'au charbon, au fuel, machin, va en fait émettre moins que quelqu'un qui a moins d'accès à l'électricité. Tu vois bien que l'électricité joue sur l'émission de la personne.
Oui, oui,
oui, mais de la même manière que d'autres variables, comme la qualité du logement et le climat, ouais, etc. Donc moi, je trouve intéressant que la variable électricité, si on peut dire ça comme ça, je n'ai pas le bon vocabulaire, soit de fait mise à l'extérieur au même titre que d'autres éléments.
Oui, mise à l'extérieur, mais il faut contrôler.
Oui.
C'est en fait, il faut se dire, voilà, quel est l'impact du prix du gaz enfin, je sais pas moi, et compte tenu qu'on a contrôlé pour l'impact de l'électricité sur les émissions. Or là, elle est écartée en amont et on fait le travail sur seulement le choix entre gaz et fuel, et est écarté. Or l'électricité a un impact sur les émissions.
Mais ça rentre dans le diagramme qui a été présenté tout à l'heure sur les éléments inexpliqués qui rentrent néanmoins en ligne de compte. Bon, c'est vrai que l'électricité est peut-être un cas à part parce que ça rentre directement dans l'idée d'énergie, on va dire ça comme ça. Ce serait peut-être dans un second temps voir comment, si on rajoute l'électricité, comment ça se traduit.
Non, en fait, ta question est très pertinente là-dessus. Hein. Mais, alors moi, de souvenir, hein, quand on avait fait cette étude, on avait, en fait, finalement, on s'était rendu compte que les modes de chauffage en France, c'est gaz, essentiellement, fuel, et beaucoup d'urbains dans les centres urbains. Mmh. Et en fait, l'électricité, ça ne représente pas tant que ça.
D'accord.
Voilà, c'est...
Mais la question, à mon avis, c'est peut-être plutôt dans la façon dont ça va évoluer quand tu fais des prédictions. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de démarchages en ce moment de gens qui font des pompes à chaleur, etc. Et qui viennent, qui te disent c'est quoi votre facture, si ça augmente, est-ce que vous allez passer une pompe à chaleur, etc. Et c'est peut-être plutôt dans la prédiction du futur où on peut se demander dans quelle mesure les gens, au moment, si ça augmente, ne vont pas carrément basculer. Et ça, tu ne peux pas le voir en tant que tel puisque tu ne l'as pas.
Non. Là, c'est quand même, ça reste du statique. Hein. On ne regarde pas. Ici, l'analyse, elle se fait à comportement constant. Hein. C'est-à-dire, on sait pas, bien sûr, le but d'une politique à long terme, c'est de modifier le comportement des gens. Et ça, nous, ici, on ne peut pas le prendre en compte.
Ceci dit, pour prendre en compte l'électricité, ça serait intéressant de voir l'âge de construction du bâti, et notamment du logement. Savoir si ça a été fait dans les années... Alors, je ne saurais pas dater exactement, où le radiateur électrique, le convecteur, était mis d'emblée. Parce que passer de l'électrique à autre chose n'est pas forcément... Et relativement coûteux. Ouais, donc c'est plutôt une question d'âge du logement.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit la durée de vie d'un équipement de chauffage, hein, elle est d'à peu près 15 ans. En fait, on change d'installation tous les 15 ans. Donc c'est ça, si on doit changer, il faut prendre un horizon temporel un peu plus élevé. Et puis lorsqu'on rénove un logement, la durée de son l'efficacité énergétique qu'on a, elle est de 17 ans. En fait, l'amortissement de la dépense, elle est de 17 ans. Donc à peu près. Hein,
Et pareil, je réfléchis en même temps. Tous les systèmes de chauffage alternatifs, genre granulés et tout ça, ou pareil, enfin, on a l'impression que si jamais ça monte beaucoup, les gens vont aller chercher des nouveaux modes de chauffage, pas seulement l'électricité, mais des granulés ou du chauffage bois ou des choses comme ça.
Ouais.
Et on peut s'imaginer que des fois, au bout d'un certain moment d'augmentation, ça ne va pas faire juste une courbe, ça va juste être boum, on arrête ces modes de chauffage au fioul et on change.
Non. Oui, mais du coup, il en tient compte un peu indirectement, puisque du coup, ce qu'il regarde, lui, c'est comment ça affecte les émissions. Donc, on finit par réduire les émissions de plusieurs façons. Soit on les réduit en utilisant justement, en passant d'une technologie gaz ou fioul à une technologie électricité, mais ça, il ne le dit pas parce qu'on n'observe pas. Mais toujours est-il qu'il réduit les émissions issues donc du gaz et de la. Et du fioul. Après, on ne sait pas comment ils le réduisent. Est-ce que donc ils font un travail, un effort sur eux pour réduire eux-mêmes en disant bon bah je veux chauffer au lieu de chauffer à 18, je vais chauffer à 17 parce que ça coûte plus cher. Ou est-ce que ils changent carrément de technologie chez eux les gens et ils disent non mais voilà maintenant je mets la pompe à chaleur. Ça on ne sait pas. On sait qu'ils réduisent les émissions.
Après, je ne suis pas entré dans les détails de la modélisation, mais bien évidemment que on a essayé de prendre en compte un maximum de facteurs qui pouvaient influencer ces émissions. Je parlais de chauffage urbain, on voit bien que l'Île-de-France est aussi un peu à part des autres régions. On s'est dit que c'était y a un effet chauffage urbain, densité de population. Donc on a pris les densités de population des différentes régions, les superficies. On a essayé de voir à ce que l'étalement des différentes régions faisait qu'on avait des modes de consommation d'énergie qui étaient différents des autres. Mais en fait, ça ne ressortait pas. Et du coup, on s'est limité aux variables que nous avons là. Voilà.
T'interromps plus longtemps, mais sur l'électricité.
C'est bientôt fini, donc ça va.
Non, mais la précarité, il y a un an dit aussi, c'est qu'en fait, le chauffage électrique est un facteur extrêmement important de précarité énergétique aussi. C'est-à-dire que la stratégie d'EDF dans les années 70-80 de faire des convecteurs partout, dans des maisons mal isolées, ça fait exploser les factures énergétiques des ménages. Donc là, c'est un facteur extérieur encore. C'est absolument dramatique.
À qualité d'isolation identique, le chauffage électrique coûte plus cher que le gaz, c'est clair.
Et EDF a poussé à fond à faire ça, surtout chez les pauvres, qui ne pouvaient pas se payer un chauffage central. Dans les vieilles maisons, j'ai vu ça. Ces vieilles maisons mal isolées, et puis on a un chauffage électrique, et les gens se retrouvent avec des factures de plusieurs centaines d'euros par mois, ils ne peuvent pas payer.
Et ce qu'on avait trouvé, c'est que. Il n'y a pas réellement d'arbitrage entre utilisation de fioul ou de gaz pour se chauffer, mais plutôt, en fait, le choix est prédéterminé. C'est-à-dire, si on n'a pas accès au gaz, on est au fioul. On met une citerne, on est dans une région rurale, on n'a pas de gaz de ville, donc on se chauffe au fioul. Autrement, on se chauffe au gaz. Et du coup, il n'y a pas vraiment de switch du gaz vers le fioul domestique.
Voilà. Oui, mais il peut y avoir un switch vers l'électricité.
Oui. Oui, parce que l'électricité est en présente partout, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, alors, du coup, on avait parlé de corriger les inégalités d'une autre manière, qui est de mettre en place des taxations carbone différenciées, donc par région. Elles permettent quand même d'internaliser... la taxe ici. Donc au départ, on taxe et puis on rembourse, on fait un remboursement ou on demande un supplément. Et donc du coup, les ménages ne prennent pas en compte ce remboursement lorsqu'ils consomment de l'énergie. Alors que là, si on mettait en place une taxe régionale qui garantirait que chaque région contribue de façon équivalente à la recette de la taxe en pourcentage de leur PIB, là, les ménages vont tenir compte de cette réduction indirecte, finalement, parce qu'elles auraient forcément un prix du CO2 qui serait plus bas. Donc on aurait les prix qui correspondent à cette carte, donc avec un prix d'une quarantaine d'euros la tonne pour la région Île-de-France, et puis pour la région Lorraine, un prix inférieur à 15 euros la tonne. Ceci dit, la mise en place d'une telle politique est très très difficile. Et puis les gains en termes de réduction des émissions, naturellement, on émet moins en mettant en place une taxe différenciée, mais c'est vraiment la différence n'est pas significative. Et enfin, donc, on resimule.
Donc tu es en train de nous dire que là, tu ferais payer moins. Reviens en arrière. Tu ferais payer moins les gens de Lorraine.
Oui.
Combien même ils émettent plus.
Ouais. Parce que le critère d'équité, c'est pas que chacun émette la même quantité. Le critère d'équité, c'est la contribution en part de revenu, qui est discutable. Hein.
Ben oui. Parce que ta contribution, elle est calculée sur les émissions.
Totalement.
En fait, je sais pas, parce que du coup, si tu dis aux Lorrains, bon, vous émettez, je vous taxe moins, eh ben, ils se mettent à émettre encore plus le rang suivant.
Je vous taxe quand même.
Oui, mais par rapport, moins fort par rapport à
Paris. Oui, oui, oui.
Non, mais c'est forfaitaire.
Je sais pas, il y a un truc.
On va peut-être laisser tout le monde finir, puis reprendre un peu la discussion.
Oui, pardon.
Bon, ensuite. Alors là, on fait une simulation, mais en prenant en compte les effets spécifiques régionaux, c'est-à-dire l'hétérogénéité qui n'est pas prise en compte dans le modèle. Donc là, maintenant, je vais la prendre en compte. Je sais que la Lorraine émet fondamentalement plus que les autres, toutes choses égales par ailleurs. Donc je vais prendre en compte le fait qu'ils émettent plus. Donc là, je vais avoir donc une redistribution forfaitaire où je dois rembourser les Lorrains de 21 euros et puis demander plus de 20 euros à des Franciliens, par exemple. Et pour ce qui est de la taxation différenciée, lorsque je prends en compte ces effets spécifiques, hein, en fait, qualitativement, les résultats ne changent pas. Hein, je demanderai toujours plus aux Franciliens et puis aux habitants de la région PACA et puis les régions du Sud hein, en général. Et puis je vais demander une taxe carbone, donc encore un peu plus basse que tout à l'heure, de l'ordre de 11 euros pour les Lorrains et les habitants de Basse-Normandie par exemple. Donc qualitativement ça ne change pas, hein, c'est juste des effets quantitatifs. Et puis alors pourquoi l'importance de la prise en compte de ces effets spécifiques? C'est juste que lorsque je prends en compte ces effets, je pourrais accroître l'acceptabilité sociale de la mise en place de cette politique. En France, on a choisi d'introduire cette taxe carbone de manière progressive, même au départ en compensant cette taxe carbone par la baisse d'une autre taxe. Hein. D'ailleurs, beaucoup ne savent pas qu'ils paient une taxe carbone. Hein. C'est l'idée de s'en rendre compte bien une fois que c'est trop tard. Donc voilà, merci de votre attention.
Merci.
Il y a encore beaucoup de questions.
Quand je m'interroge encore sur ces histoires de surcontribution de la Lorraine calculée comme c'est calculé.
La Lorraine de l'Auvergne.
Ou l'Auvergne. Et finalement, la redistribution positive vers ces régions-là. Ça, c'est la première chose que je ne vois pas très bien, même si je comprends un peu ce que tu es en train de me raconter, mais il y a un chaînon qui manque un truc. Puis la deuxième chose, c'est que si, au bout du compte, ce que vous préconisez, donc c'est une espèce de taxes plus ou moins grandes selon la contribution, finalement c'est ça. Mais tu sais, je prends la Lorraine, à l'intérieur de la Lorraine, il y a des gens pauvres comme il y a des gens très très riches. Il y a aussi de la redistribution. Il y a des inégalités à l'intérieur de chaque région. Donc dire bah, je demande à toute la population de la Lorraine de payer moins, et je vais demander à toute la population d'Île-de-France, alors qu'il y a beaucoup de pauvres aussi en Île-de-France, de payer plus, est-ce que c'est vraiment équitable? Donc, tu vois bien que, alors que tu veux rendre les régions à contribution équitable, bah oui, mais enfin, tu crées aussi des inégalités à l'intérieur de la région.
Non, bien sûr. Moi, j'ai dit on rembourse en moyenne, c'est-à-dire je ne suis pas entré dans la sauce de chaque région. C'est-à-dire, bien sûr, il faudrait tenir compte des inégalités que cela introduit à l'intérieur même des régions. Mais ouais. c'est au-delà du cadre de cette étude, parce qu'on n'a pas de données micro pour aller plus loin. Et l'étude a été très très limitée, parce qu'on n'a pas de données. Ça s'est arrêté en 2009, et puis ils ne diffusent plus. Mais si on avait des données jusqu'en 2015, on aurait utilisé une modélisation plus dynamique qui prendrait en compte les changements de comportement. Donc on aurait pu faire beaucoup mieux si on avait des données. Et pour répondre à ta question sur l'électricité, je ne pourrais pas te donner une réponse. Je me rappelle qu'on s'était posé cette question. Alors je ne sais plus pourquoi on a exclu, je ne sais plus. Parce qu'on a des effets de... Vu que c'est des prix nationaux, les prix des énergies, comme c'est des prix nationaux, en fait, on a de la collinéarité entre les trois prix. Et du coup, c'est limite, parce que même ici, ça correspond un peu à des effets fixes temporels, en fait.
Mais moi, je suis pas du tout... Je trouve que tu es un petit peu... Tu chipotes un peu, parce que...
Non, non. Je ne sais pas, je critique, c'est juste
que
je...
Non, non, bien sûr, au contraire.
Je me pose plein de questions, je me dis, voilà, ça, c'est le type de question, si vous voulez l'envoyer dans le rendu.
Non, mais c'est vrai,
ça sera posé.
Oui, ouais. Mais c'est les caisses de redistribution.
Il ne s'agit pas de casser.
Oui, mais non, bien sûr, je comprends.
Opposer différenciation des taxes et redistribution forfaitaire, la redistribution forfaitaire, c'est quand même l'idée qu'il faut quand même faire passer un mécanisme dans l'esprit des gens, de dire qu'il faut que l'énergie, il faut la payer plus cher. Et qu'après ça, tu les compenses, donc tu paieront, donc ils payent le prix. Et puis après, par contre, tu leur donnes un bonus qui, et justement, si ça les pousse à réduire la consommation d'énergie, mais qu'avec l'argent, eh bien, qu'ils pourront finalement, ils ne seront pas obligés de réduire leurs dépenses alimentaires, etc., et qu'ils pourront utiliser cette consommation forfaitaire, c'est assez vrai, c'est beaucoup plus, enfin, sur tous les critères, c'est équitable, c'est plus équitable.
Oui, oui.
Mais... On fait ça sur les États-Unis, tu seras halluciné. Sur les États-Unis, tu imagines un peu les gens qui sont dans les Rocheuses ou dans les Appalaches, là, qui sont des rednecks, là, qui ont trois fois rien, qui vivent de bons alimentaires et qui se chauffent aussi. Eux, ils sont les premiers à défendre le modèle américain de l'énergie à bas prix. C'est pour ça que les démocrates n'ont pas pu faire grand-chose, parce qu'ils savent que si tu touches le prix d'énergie, tu frappes et tu pauvres aux États-Unis, c'est évident.
Ah oui.
Et alors on leur met des subventions en plus, t'imagines. Donc, si on faisait ça sur les États-Unis, on aurait des résultats encore plus impressionnants. Hein. Mais moi, je trouve que c'est le dilemme qu'on a entre, justement, en écho de l'environnement, ou sur le fait que, finalement, fatalement, on touche au problème des inégalités. Ça, quelque part, l'environnement, c'est un bien de luxe, quand même. La protection de l'environnement, c'est un bien de luxe par rapport.
Et moi, je me posais la question, parce que si je comprends bien, l'inégalité qui apparaît, elle est liée pour beaucoup aux conditions climatiques des régions. Donc, si on voulait on prend le problème par, comme tu l'as fait là, par les inégalités, c'est peut-être pas au niveau de la taxe qu'il faut chercher à régler, mais c'est peut-être sur le prix. Sur le prix des carburants au départ, parce qu'on pourrait partir de l'idée que finalement tout le monde a le droit d'être à 20 degrés, quelle que soit la température extérieure de sa région. Et donc, de ce fait, c'est sur le prix du carburant qu'on va utiliser, qu'on vienne d'une région froide ou d'une région plus douce, qu'on pourrait réduire les inégalités d'un point de vue... économique.
Oui, mais c'est exactement ce qu'on fait, parce que nous on parle de taxes, mais la taxe c'est quoi? C'est juste un supplément de prix d'énergie. Du coup, c'est sur le prix de l'énergie que ça va.
Sur le prix d'énergie, d'accord, ouais. Ok, donc.
Ce qu'on n'a pas,
on a. Ce serait sur le en fait, ce serait au moment de l'achat des carburants que le prix serait que le prix serait différencié. Ouais. Et donc, du coup, c'est bien dans les régions les plus froides que le prix du coup sera
un peu plus bas.
Mais sur le fond, c'est sur la taxe.
Oui, c'est le supplément de
prix. Alors que finalement, ça pourrait être présenté sur le coût de base, quoi.
Oui, parce que de toute façon, dans le coût d'énergie, vous avez le coût en lui-même et puis toutes les taxes qui s'y ajoutent, les taxes sur l'énergie ou sur le cas ou sur les émissions comme dans ce cas. Maintenant, bien sûr, nous on parle de taxes CO2, mais ça aurait pu être sur les. Si on veut.
Non, mais pour le présenter, ça pourrait être plus sur le coût de base pour se chauffer, qui finalement on rendrait égalitaire, plus égalitaire, compte tenu des besoins en chauffage régionaux.
Oui, oui, absolument. Oui, sur la forme, oui. C'est, ça vaut mieux de le présenter comme ça, en disant que le critère d'équité, moi je parle de part de revenus qui est consacré à l'énergie, ou du moins à la taxe, en fait, il faudrait dire à l'énergie, finalement.
Ouais.
Si je pars de l'idée que les prix de l'énergie, c'est les mêmes en France,
mais là, du coup,
ils ne seraient
plus les mêmes.
Ben non. Non, ils ne seraient plus les mêmes. Parce que...
plus les mêmes, ouais. Ça va loin, comme parle.
Mais en même temps, il faut voir que... au taux de la taxe qui est introduite à 22 euros la tonne, qui représente 7 à 8% du prix du gaz, par exemple... donc même dans les variations, hein, ça va. Je sais pas si quand on introduit de la variation entre les régions, dire passer de 14 à 41 euros la tonne de CO2. Donc à 22 euros, ça fait 8%. Donc on va dire à 15 euros, ça fait 5%. Donc on va dire, là on est donc on passerait de, en fait il va y avoir des taux de taxes allant de 5% à 15% du prix du gaz. Donc il y aura des différences quand même significatives.
Et qu'est-ce qui a justifié, ou comment les pays ont justifié justement les grandes variations sur le prix de la tonne carbone que vous avez présenté au départ? Ou est-ce que personne n'a à se justifier par rapport au...
Alors, c'est ça.
Oui.
En fait, il n'y a pas de justification. La France, lorsqu'il voulait mettre en place ça, il voulait être un peu cohérent avec le prix du CO2 sur le marché européen des quotas. Parce qu'il y a toujours la question qu'on se pose toujours. Faut-il un prix du carbone, un même prix du carbone pour tout et quel que soit l'endroit où on se trouve, ou pas? Ensuite, alors, pourquoi en Suède c'est très très élevé? Parce que j'ai parlé au début de prix ne reflétant pas la valeur sociale du carbone. Donc du coup, quelle est la valeur sociale du carbone? Et là, on a des estimations de 60 à 200 euros la tonne de CO2.
D'accord. Donc ça,
donc, voilà, c'est
présenté comme ça, comme une valeur sociale attribuée au carbone par les pays.
Et est-ce que c'est une décision qui est d'ordre politique? Ou bien aussi en même temps le reflet de la différence de mode de calcul de la valeur sociale du carbone? Est-ce que les Suédois calculent différemment le coût du carbone par rapport aux Français et aux Anglais? Ou c'est purement politique? Genre en France on a mis 7% parce qu'au-delà ça serait plus difficile à faire passer, etc.
En tout cas il y a l'idée que les pays scandinaves ont un consentement à payer pour les produits environnementaux qui est supérieur aux autres. Mais
on n'a pas de. Mais ils ont un mix énergétique maintenant avec la biomasse énorme en Suède. Hein. C'est, je ne sais pas quoi ça représente. Hein. C'est, je ne sais pas si c'est 20% des énergies qui sont maintenant.
Parce qu'on a fait.
En matière de biomasse, ils ont de la forêt partout. Hein. Ça joue aussi.
On a fait une extension de cette étude avec des données beaucoup plus plus fine et plus intéressante au cas de l'Europe. Donc, mise en place d'une taxe carbone européenne et voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des pays. En fait, c'est assez bizarre parce que ça suppose une certaine homogénéité entre les pays. Hein. Ces types de modélisation supposent une homogénéité. Mais en fait, on se rend compte que... alors, c'était quoi les pays ? C'était donc Finlande, Suède, Danemark... Et bon, c'est pas un pays européen, mais plus en Norvège, ils avaient un peu le même comportement, qui est très différent du reste de l'Europe. Ouais. Et donc du coup, et en même temps, alors on comprenait pas, donc il y a un comportement différent, mais en même temps, c'est des pays où la taxe carbone est en vigueur depuis au moins depuis 30 ans. Quoi. Donc du coup, est-ce que c'est pas ça qui...
Je veux dire, c'est soit un effet d'habitude, soit un effet de culture. D'habitude, si ça fait 30 ans que ça existe, bon bah, c'est plus remis en cause, ça peut être augmenté de temps en temps, etc. Ou un effet de culture lié à ce que tu disais, par exemple, qu'il y a une culture plus équitable qu'ailleurs.
Oui, effet d'habitude, ou de ce qu'ils avaient, c'est peut-être qu'ils ont réussi leur transition énergétique.
Ouais.
Ouais, ça fait 30 ans et...
Et pourtant, ils ont le froid chez eux.
Ils ont... Oui, c'est ça, mais c'est incroyable.
Mais c'est pareil pour les vélos. Tu vois, à la fin, il y a des vélos partout. Ici, il fait froid, il pleut. Et ici, là-bas, on prévoit qu'il ne fait pas froid, ils viennent tous en vélo, y compris les profs. Hein.
Mais la problématique ne se pose pas de la même manière que dans ce papier, parce que c'est pas les régions les plus froides, c'est pas les moins riches. C'est pas du tout ça.
C'est ce que j'avais en tête.
Et eux émettent moins alors qu'il fait plus froid. C'est vrai. Non, c'est très particulier. Et c'est beaucoup dû au chauffage urbain, ça c'est sûr.
Ouais, ouais, ils ont des centrales à bois. Ils ont des... Mais sinon, juste quand Ségolène a monté un petit peu le prix de l'essence, il y a une partie de la taxe carbone, donc c'est l'augmentation de la taxe carbone qui joue là-dessus.
Maintenant, oui.
C'est tout à fait. Enfin, c'est vraiment faux cul, hein, mais ça enregistre là parce que.
Oui.
Non, mais c'est très faux cul. Mais c'est très focus parce qu'en fait. Mais non, mais moi j'ai encore fait le calcul à la main. Là, quand on achète même l'essence à 1 euro le litre, hein, en fait, le gasoil à 1 euro, 1,20 euro, en fait, on paye une taxe carbone qui fait implicitement 300 euros la tonne, hein, j'ai vérifié.
Je sais pas, d'accord.
Si, j'ai vérifié. Enfin, non, mais tu dis, la norme, on dit maintenant, si vous êtes à 120 grammes au kilomètre, 120 grammes de CO2 au kilomètre, ça correspond, je crois, à 5 litres au 100. Enfin, c'est des normes de consommation très basses. Hein. Mm-hmm. Alors, tu calcules ça, tu fais l'équation, arrivé à la tonne. Donc, j'ai calculé qu'il fallait... j'ai noté sur le papier. 80. Et je suis arrivé, en fait, en calculant donc, le nombre de kilomètres qu'il faut faire pour arriver à une tonne. Tu ramènes à sa consommation d'un véhicule, tu divises par le prix. Et moi, j'arrivais finalement à... On arrive à 300 euros la tonne. Et c'est ce qu'il disait dans le rapport Tirole. Le rapport Tirole disait, vous savez, le prix des CO2 évités, il monte à 200-300 euros la tonne quand on achète de l'essence pour la voiture, alors que pour le gasoil maison, c'est moins cher, ou le gasoil agricole, ou bien le gaz. Et donc le fait de dire, on paye une taxe carbone maintenant, en fait, c'est une partie de la taxation qu'on paye sur l'essence qui est vouée à ça. Donc, à la limite, on pourrait dire, on paye 100 euros la tonne. Hein, ce qui manque, c'est une homogénéité, en fait, entre ce qu'on paye sur l'essence. Donc, à la limite, on devrait presque avoir aucun scrupule d'utiliser une bagnole parce qu'on paye une taxe carbone à 300 euros la tonne. Non, mais sans déconner, hein, c'est...
Mais Xavier, tu es parti de quel montant pour arriver à 300 euros la tonne ? Ça fait beaucoup.
Mais si, toi, j'ai fait...
Non,
j'étais sur mon papier. Non, mais j'ai dit... c'était à 120 grammes au kilomètre.
Oui.
120 grammes au kilomètre, donc je calcule en kilomètres pour arriver à une tonne.
Ouais.
Donc il te faut...
Et après tu prends ton temps plein.
1000 kilomètres pour arriver à une tonne, tu vois, il faut 8 fois... si je prends la base de 100 grammes, pas 100 grammes, mais 100 grammes c'est bon, les 100 grammes au kilomètre, donc 1000 kilomètres pour arriver à une tonne. Non, 1000 kilomètres pour avoir une tonne, donc 1000 kilomètres, ta voiture va consommer 50 litres, hein, 5 litres, 50 litres, 50 litres x 3, 50 litres, donc 50 euros, et donc 50 euros, attends, j'avais encore un petit peu à faire, j'ai 1000 kilomètres, donc j'ai fait 1000 km à temps. Oui, 1000 km si la voiture fait 5 litres au 100. Donc ça me fait, oui, c'est ça, ça fait 50 litres.
Oui, mais tu dis 5 litres d'essence, c'est-à-dire à peu près 50 euros, un petit peu moins.
Attends,
on va dire de CO2, ça
mais ça, il fait 3 fois plus. Mais là, il considère tout le prix de l'énergie. Là.
Ah oui, en plus, je prends
le prix. Ah oui, c'est ça que je ne comprenais pas.
Mais les 300 euros, hein. Oui, mais l'État, je prends les deux tiers, attends. Ça fait 12 kilos pour 100 km. Oui, c'est ça, c'est bon. Donc il faut... Pour faire une tonne, il faut...
Là, sur le prix de l'essence, c'est la première fois qu'on va rajouter une taxe carbone, c'est ça ?
Non, depuis 2014, ça existe, mais c'était compensé au départ. Mm-hmm. Donc, en fait, on a fait baisser une taxe, ou du moins, on a décidé qu'une taxe devenait une taxe carbone, donc on n'a pas à modifier le prix.
Donc.
Mais en 2015, on a augmenté la taxe, et là, la taxe a augmenté.
Par exemple, elle n'a augmenté que de 3 centimes.
Non, il faut 10 000 km pour faire une
tonne. Mais en fait, c'est pas le prix total du litre d'essence.
Non, c'est juste la taxe. Et avec la baisse des prix de l'énergie, ça en ressent moins.
Mais il ne faut pas compter le prix au litre, il faut compter 3 centimes
500
du litre. Ouais. Donc dans ces cas-là, c'est pas 500 euros.
Les deux tiers de taxes, ça fait ça. C'est ça, c'est 10 000 km. Donc 10 000 km, ça te fait 500 euros. Tu payes 500 euros d'essence pour faire 10 000 km. Là-dedans, eh bien, ton essence, tu as les deux tiers, trois quarts même, qui sont pris par l'État. Donc tu prends la taxe, eh bien, ça te fait 300 euros.
Oui, mais toi, tu prends toutes les taxes sur l'énergie, pas que la taxe carbone.
Ah oui.
Ben évidemment, c'est, pour moi, j'en ai.
Tu l'appelles comme tu veux.
Bien sûr, c'est ma taxation de carbone. Moi, je divise émission de carbone parce que je paye à l'État. Mais effectivement, mais de toute façon, c'est des trucs. Les fiscalistes sont des pervers. Hein. Mais non, tu vois, tout est connu. Contribution, machin.
Par rapport à ça, moi, je me suis posé la question parce que quand j'ai vu le titre, les effets redistributifs, etc., et vu que c'est une taxe, en soi, la taxe, hormis le fait qu'on veut faire baisser la consommation, c'est des sous dont on n'est pas censé avoir besoin, donc on récupère des sous. Et comment on les redistribue, ces sous? Et je pensais que l'intervention allait être sur qu'est-ce qu'on fait avec ces sous qu'on a gagnés en mettant en rajoutant une taxe.
C'est une double dividende, on appelle ça.
On les redistribue.
C'est le double dividende, il y a toute une approche là-dessus, hein, sur le fait de dire... l'idée c'était de faire une taxation, on taxe le carbone et puis on redistribue, mais pas on redistribue.
En baissant les taxes sur le travail.
On baisse la taxe sur le travail, comme ça, on dit on va encourager l'emploi, donc on baisse exemple, les charges sociales sur les plus bas salaires, en encourageant des comportements écologiques. Ça, c'est la double idée.
En fait, là dans ton titre, c'est comment ça se redistribue, si on fait ça ? Et non pas comment on redistribue si on prend en compte là dans ton. Enfin si j'ai bien compris, oui. dans ce que tu disais, c'était plutôt volontaire, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Avec là, c'est les effets directement induits par la présence d'une taxe. Oui. Voilà. Ça se redistribue sur le plan de l'équité sociale. D'accord. Non, c'est vrai que j'ai eu l'humilité aussi, mais je suis pas économiste.
C'est ça, c'est un aspect normatif.
Yes.
C'est ça. Okay.
Comment ça devrait se passer et comment ça se passe ?
Ouais.
Oui, c'est comment ça se passe, l'analyse positive, et ce que vous demandiez, c'est plutôt de l'analyse normative. Comment non. ça devrait se passer ?
Non, en fait, c'est pas normatif, parce que moi, toute la législation pour la taxe carbone, j'ai absolument aucune idée de comment ça se fait, et je me disais peut-être qu'il y a une redistribution qui est prévue, et donc on n'est pas...
Ah oui, non.
Incidemment,
ça a des effets incidemment.
Et Jamel, j'ai bien entendu, ça passe à 22 euros alors au niveau français, c'est
oui,
ça ?
Oui, là.
De 7 à 22, et après ça va encore...
Non, en fait, rien n'est prévu, je ne sais pas. Hein, je ne suis jamais à la page sur ces trucs-là, mais...
Ah si, si, hein, c'est 30 euros en 2017.
Voilà, donc voilà, c'est ça.
C'était un tel excès, enfin, je pense que tu comprends le sens de ma question, c'est que... Rapport
au projet
qu'on
ensemble,
on peut mettre 30 euros, donc du coup.
Ah oui.
Il y a une programmation sur plusieurs années. Bon, on sait apparemment que c'est 30 000 euros l'an prochain, mais on sait pour après. C'est d'année en année, ils se disent tiens.
Quand ça a été lancé, c'était sur 3 ans, et puis là.
Et là, c'est.
Je pense que c'était pour atteindre l'objectif en 2017.
Ah, d'accord.
Ouais. Mais ça, c'était par rapport à la dernière. Loi sur le Grenelle 2, je crois. Ouais. Okay. Donc il faut qu'elle soit mise à jour. Et c'est à ce moment-là, je pense, qu'ils vont redécider si vont continuer ou ils décideront avant, évidemment.
Là, c'est un ajustement.
Voilà.
Okay. Et la couillonnade du marché du carbone, c'est que. Bien, il était à 30 euros la tonne. Justement, à l'époque, on a dit oh, c'est super, c'est bien calé avec le rapport Kinet. Il sort à 30, ce marché, 30 euros la tonne. Ça va être encourager les entreprises du secteur énergétique et de l'industrie à réduire leurs émissions. Et puis, vous savez, c'est tombé à 6 euros la tonne. Donc, puis là, ça ne bouge pas. Alors, ils essaient de le faire remonter, hein, mais je ne sais pas, je ne suis pas très bien sur le marché. Je ne connais pas ce qu'a fait le prix, mais bon, il ne remonte pas parce qu'il y a eu les effets de la crise de 2008. Et le succès des renouvelables aussi, ça a eu tendance. Parce que le plafond en fait, d'émission, il n'a pas été rabaissé. Donc le plafond a été calculé sur une prolongation de ce qui se passait en 2008, avant 2008, donc il y a une croissance très forte. Et apparemment, il y a un lobbying tel qu'il y avait des tas de mécanismes qui auraient pu empêcher. Enfin, on pouvait mettre les droits aux enchères. Enfin, et ça n'a pas été. Donc là, 6 euros la tonne, c'est totalement
finesse. La série, elle se termine tôt, mais il n'y a pas eu des effets des événements en Ukraine sur. Parce que je veux dire, quand le gaz il est avec l'histoire de l'Ukraine, ça a monté. J'imagine que. Non, je ne pense pas que vous avez fait ça.
Non, je. L'étude, en fait, elle se libre. Elle est vraiment. C'est. Voilà, j'ai des données. Je regarde ce qui se passe. Maintenant, le paramètre que je trouve. Si le prix doit doubler, si le prix du gaz doit doubler, moi je peux capturer son effet. Mais comme moi je fais une simulation sur, une prédiction arrière finalement, ce qui serait passé si on avait mis en place la taxe carbone en 2009. Mais on aurait pu, par des méthodes de prévision, du moins tirer nos séries, hein, tirer des tendances et dire voilà, en 2016 c'est ce qui se passe. Mais comme on n'a pas toutes les données réelles, bon, on n'a pas voulu aller plus loin. Merci
à tous.
Merci à tous pour les échanges.